17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, grand témoin et aujourd'hui Bernard Amsalem. Merci d'être là Bernard. Alors, l'athlétisme n'a pas de secret pour vous. Pendant plus de 20 ans, vous avez dirigé l'athlétisme français. Vous êtes aussi dans le Comité national olympique français. Vous présidez aussi au Comité international des Jeux méditerranéens qui vont avoir lieu à Oran. Vous avez le sport dans la peau. Vous avez été d'abord dans le handball. Cet amour du sport, ça vient d'où ?
Oh ben, ça vient de ma tendre jeunesse, hein, quand j'étais petit, c'est-à-dire moins de 10 ans, je n'avais pas le droit de faire de sport parce que j'avais une maladie, une primo-infection, donc c'est un début de tuberculose. Et donc les médecins nous avaient interdit de faire des exercices physiques. Et je voyais tous mes copains faire du sport au bord de la piscine,
c'est
au bord
terrible,
du stade.
Ça. C'est terrible pour, pour un enfant, c'est terrible.
Et donc j'étais privé de sport. Et à partir de l'âge de 11-12 ans, j'étais guéri, totalement guéri, et là j'ai été autorisé à refaire du sport, et du coup j'ai attaqué tous les sports possibles. Au début je voulais faire tous les sports, donc j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du handball, j'ai fait du ping-pong, du karaté, du rugby, etc. Bon, j'ai fait beaucoup plus de handball que les autres, hein, un peu de javelot à l'athlétisme, et ensuite le handball, et puis j'ai fait du handball jusqu'à l'âge au-delà de 40 ans, enfin j'ai, voilà. Donc, mais j'adore le sport, et par ailleurs, j'adore l'athlétisme. À l'âge de 10 ans, je m'intéressais aux performances des athlètes du monde. Et j'avais mes propres minima, et j'achetais le journal L'Équipe pour voir les résultats. Et je marquais sur un cahier, à l'époque il n'y avait pas Internet évidemment, je marquais tous les résultats de tous les athlètes du monde, et je faisais mes propres bilans en fin d'année.
Vous êtes de la génération de Michel Jazzy.
Oui, alors Michel Jazzy, c'est un grand monsieur, un grand champion.
Je vous dis ça parce qu'on est à peu près la même génération, et moi j'allais au club Michel Jazzy.
Ah oui.
Qui était dans le, je crois, le 9e, et je collais des étiquettes, je remplissais des enveloppes, j'étais fier de faire partie du club Michel Jazzy, j'étais gamin, on nous donnait un jus d'orange pour nous remercier, et vous faites partie de cette génération amoureuse du sport et de l'athlétisme.
Ah oui, bien amoureux des athlètes aussi, pour moi c'est des modèles de réussite, Jazzy en est un, comme d'autres grands champions.
C'était nos idoles.
C'était nos idoles, Micheline Ostermeyer, qui était génération avant Jazzy, qui avait été championne olympique en 48, ou les premiers Jeux après la guerre de 40, et que j'ai suivi jusqu'à la fin de ses jours. Voilà, elle habitait en Normandie. Donc, une grande pianiste également. Donc, vous voyez, le sport, c'est aussi de la culture.
Et en fait, l'athlétisme, c'est pour résumer un peu ce que vous avez dit d'entrée de jeu, vous vouliez faire tous les sports. Donc vous êtes intéressé à l'athlétisme, où on a à peu près toutes les disciplines.
Eh ben oui, parce que d'abord, l'athlétisme, c'est la base de tous les sports. Courir, sauter, lancer. Une fois que vous maîtrisez ces gestes sportifs, vous pouvez faire n'importe quel sport derrière. Et effectivement, j'étais passionné par l'athlétisme. Mais bon, comme j'avais un bon bras, mon entraîneur m'avait dit « Tu arrêtes le javelot et tu fais du handball ». Et c'est là que j'ai fait du handball pendant plusieurs années. Mais j'ai toujours gardé un lien avec l'athlétisme. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de me retrouver à la présidence de la Fédé. Et ça a été pour moi une espèce de rêve accompli, de devenir président d'une fédération comme celle de l'athlétisme. Et là, j'ai côtoyé évidemment énormément de grands champions au travers de toutes les manifestations, les grandes compétitions qui étaient organisées.
Et vous avez toujours gardé le contact avec le sport. Et puis, j'imagine que pour un enfant, un adolescent, un universitaire, parce qu'il y a les jeux universitaires d'athlétisme, c'est aussi pouvoir aborder toutes les disciplines. On peut se rattraper dans une discipline où on n'est pas très bon, etc. C'est une moyenne. En fait, on offre une espèce de moyenne à quelqu'un qui peut s'exprimer de différentes façons. Il n'est pas obligé d'être le meilleur dans une discipline.
Oui, je cherchais pas forcément à être le meilleur dans la discipline que j'ai le plus pratiquée, mais je voulais toucher à tous les sports. Et donc, parce que j'ai même fait du basket aussi au début, j'avais 14 ou 15 ans. Je voulais absolument toucher à tous les sports parce que j'avais été privé de ça quand j'étais plus jeune. Et donc, pas forcément devenir un champion. C'était pas ça mon objectif.
Alors, et quel était votre rapport avec les athlètes pendant une vingtaine d'années? Bon, vous avez été vice-président pendant 4 ans, président pendant 15 ans. La relation que vous aviez avec les athlètes, c'était quoi? C'était on est copains, c'est le maître, c'était quoi cette relation?
Un grand respect pour ces athlètes. Vous savez, le parcours de performance pour les athlètes, c'est parfois un parcours extrêmement compliqué. Et peu arrive au bout, hein, sur la quantité de ceux qui s'y engagent. Donc j'avais un grand respect par rapport à ce que représentait un parcours de performance pour ces athlètes. Et finalement, j'ai beaucoup sympathisé avec beaucoup de ces athlètes.
Qui étaient issus beaucoup des quartiers populaires.
Alors, une grande partie est... Vous savez, l'athlétisme, quand on regarde les disciplines, selon les disciplines, c'est des sociologies différentes. C'est-à-dire que on retrouvera assez rarement ça dans d'autres sports. Donc, vous avez toutes les sociologies de la société. Vous avez les demi-fonds, c'est plutôt les quartiers. Effectivement, le sprint un tout petit peu, mais pas forcément.
C'est sûr que l'escrime, c'est pas spécialement le 9-3.
Non. Et puis, dans chez nous, les épreuves un peu techniques, comme la perche, comme les courses de haies et tout, et ben, c'est plutôt les classes moyennes, voire plus. Et donc, tout ce beau monde, finalement, qui peut-être se croiserait pas dans la rue ou dans la vie de tous les jours, ben, grâce à l'athlétisme, peut échanger, se croiser, oui. Échanger. Et ça a été une belle expérience. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour ceux qui, pour tous ces sportifs, qu'ils aient réussi ou pas réussi, parce que c'est toujours un travail, et surtout dans le sport amateur, hein, c'est difficile. Concilier le sport avec des études supérieures, c'est très compliqué aujourd'hui. Alors ça dépend quel type d'études en France, mais c'est quasiment impossible de faire médecine et en même temps le haut niveau. C'est quasiment impossible. Alors il n'y a pas d'horaire aménagé dans les universités, ce qui est d'ailleurs un défaut que la France a. On a d'autres pays autour de nous qui concilient les deux sans problème. Il y a quelques universités qui le font et quelques grandes écoles, mais c'est des minorités. Mais donc là, il y a sans doute à réfléchir pour les sports individuels à mieux accompagner les athlètes dans leur parcours de performance.
Et vous êtes toujours dans la SAOS Meeting Areva de Saint-Denis?
Alors, malheureusement, bon, je ne suis plus président de la Fédé, hein, vous l'avez dit. Ouais. Depuis 5 ans, j'ai passé la main. Et le meeting, donc, je m'en occupe plus, forcément. Et donc, ce meeting qui était organisé au Stade de France était un des meilleurs meetings du monde. Ça a été un grand souvenir pour moi. On a fait, en moyenne, 65 000 billets vendus par jour. Donc au championnat du monde qu'on avait organisé en 2003 au Stade de France, hein, ça a été aussi un grand souvenir. C'est un record, hein, 65 000 billets vendus. Il y avait en plus des gens invités, évidemment. Donc on était dans le stade de 70 000 chaque jour. Ça a été un grand rendez-vous, un grand souvenir et surtout de belles performances, puisqu'on avait battu le record de médailles à cette occasion. Et depuis que je suis parti, bon, ce meeting n'a plus lieu au Stade de France. Il a lieu à Charletti, donc dans un environnement plus petit. Mais donc je n'ai plus, moi, de responsabilité à la Fédé. Donc c'est pas mon choix, mais c'est comme ça.
Alors ça me donne l'occasion, puisqu'on parle de Saint-Denis, de parler de cet événement qui a défrayé la chronique, la rencontre entre Liverpool et le Real, où on s'est interrogé sur la capacité de la France à organiser. Bon, ça a été un peu la polémique, mais on a demandé est-ce que la France s'excuse, Liverpool, le Real, etc. Vous, c'est le contexte électoral qui a voulu que ça explose comme ça. Il y a vraiment eu des faux billets. Quelle est votre analyse de cet événement?
Écoutez, vu de l'extérieur, parce que je peux pas donner d'informations précises. J'ai lu, comme tout le monde, tout ce qui avait été dit par les différents intervenants. Il y a eu des faux billets. Il y avait beaucoup de supporters anglais qui sont venus également, parfois sans billets aussi. Et puis c'est le football. On peut pas comparer le foot à tous les autres sports. C'est le sport numéro un, hein, en Europe et dans beaucoup de pays du monde. C'est un sport qui attire énormément de monde. On l'a vu là. Et puis, parfois, c'est aussi un sport où il y a des débordements. On le voit dans d'autres occasions, hein, soit de racisme, soit de violence. Voilà, tout ça additionné, plus peut-être une impréparation de l'événement au niveau sécurité, eh ben forcément, ça a débouché sur des difficultés et ça a donné une mauvaise image à la France, alors que nous avons les Jeux en 2024, que nous allons organiser. Moi, je suis certain qu'ils vont être bien organisés.
Ah, le procès d'intention qu'on fait sur la France en capacité d'organiser des événements, je crois que c'est un mauvais procès.
C'est un très mauvais procès. La France organise souvent des événements sportifs dans tous les sports. Et à chaque fois, ça a été une très belle organisation. Et donc, il n'y a jamais eu de problème. Là, c'est un cas particulier, en quelque sorte. Et ce cas particulier ne doit pas non plus effacer tout le savoir-faire que nous avons d'organisation en France.
Et moi, ce que je dis, Bernard, et vous savez ce qui se passe dans le monde entier, notamment sur les rencontres de footballistique, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Je veux dire, c'est que les services de sécurité ont levé les goulots d'étranglement, et bien sûr, on peut regretter ceci ou cela, mais quand même, le résultat, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas se résoudre à ça, mais c'est quand même le résultat essentiel.
Absolument. Et donc, il y a eu peut-être une petite défaillance dans l'organisation de la sécurité autour du stade. Mais pour autant, je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer. Il ne faut pas exagérer. Voilà, encore une fois, je pense que nous avons une bonne réputation de bon organisateur. Les Jeux, je ne me fais pas de soucis sur ce plan-là.
D'ailleurs, France-Danemark qui a suivi, c'est très bien passé. Et puis on est persuadé que le reste aussi va bien se passer. On se retrouve dans un instant pour la suite des Grands Témoins.
Les Grands Témoins revient dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, Les Grands Témoins avec Nasser Khétan.
Oui, grand témoin aujourd'hui, Bernard Amsalem, qui a été le patron pendant 20 ans de l'athlétisme français. Bernard Amsalem qui est né en Algérie, à Saïda, qui n'est pas un ami d'Algérie, qui n'est pas un amoureux d'Algérie, mais qui est algérien. Et ça, on aura l'occasion d'en parler puisque il a présidé, co-présidé à l'organisation des Jeux méditerranéens d'Oran qui vont avoir lieu ce mois-ci. Mais avant d'aborder les Jeux méditerranéens, la Méditerranée et l'Algérie de façon en particulier, un mot encore sur l'athlétisme français. Où en est l'athlétisme français? On a eu les Jeux Olympiques récemment. La moisson n'a pas été terrible. Il y a un creux de la vague, là. Le sport olympique français passe une mauvaise passe pour...
Écoutez, c'est difficile de répondre précisément. Moi, je regarde un peu de l'extérieur ce qui se passe maintenant. C'est clair que pendant la période où j'étais président, on avait amélioré toutes les meilleures performances dans tous les grands championnats internationaux. 6 médailles à Rio en 2016, 25 médailles à Zurich au championnat d'Europe, c'est le record. Hein, et puis 8 médailles, donc 2 fois de suite à Paris et Helsinki au championnat du monde. Donc voilà, donc on était contents, on avait atteint nos objectifs. On a doublé le nombre de licenciés en 15 ans aussi, c'est aussi quelque chose d'important. Hein. On a aussi diversifié l'offre de pratiques. Il y a le haut niveau, c'est bien, c'est la vitrine. Mais on a aussi créé le sport santé, le sport en entreprise aussi, bref, qui se développe hein, maintenant partout. Hein,
les Français font du sport.
Exactement, parce que j'ai toujours considéré que le sport était un médicament. Venant de l'industrie pharmaceutique, je connais le médicament et donc j'ai considéré que c'était un médicament et que ça permettrait d'accompagner des malades. On a d'ailleurs formé beaucoup de coachs santé qui accompagnent des malades envoyés par des médecins maintenant, puisque la prescription non médicamenteuse est maintenant prévue dans la loi et donc un médecin peut faire une ordonnance pour faire du sport à un malade. Et nous avons comme ça des milliers de gens malades de tout type de pathologies, 47 pathologies qu'on a référencées lors d'un audit.
De toute façon, tous les médecins et tous les chercheurs s'accordent à dire que le sport, c'est un des meilleurs anti-inflammatoires.
Absolument.
Lorsque vous faites du sport, vous augmentez votre immunité, vous augmentez vos capacités de vous défendre contre telle ou telle agression microbienne, virale ou autre. Absolument. Donc le sport, c'est un des médicaments numéro un. C'est pas le
absolument
numéro un.
Absolument. Même pendant la crise du Covid, les Américains avaient fait une étude sur la prévention du Covid par le sport. Et le sport en plein air, évidemment. Et donc, ça démontrait qu'effectivement, quand on faisait du sport en plein air pendant la crise, la plus importante, hein, au moment du confinement, ça permettait de prévenir en quelque sorte cette maladie auprès des gens qui pratiquaient le sport. Donc le sport pour moi c'est vraiment essentiel à la société. Il n'y a pas que la santé, hein, il y a la santé évidemment, mais il y a aussi je dirais la prévention. Le sport, c'est aussi un médicament de prévention. Je pense aux enfants, notamment. On note un surpoids des enfants de 25%, des moins de 12 ans, on va dire. Eh bien, si tous les enfants faisaient du sport à l'école, non pas une demi-heure par jour, mais une heure par jour selon les recommandations de l'OMS, eh bien, je pense que ces enfants éviteraient donc de prendre du poids et éviteraient peut-être plus tard de développer certains types de maladies. Je pense en particulier à des maladies diabétiques, etc. Grâce à ça. Et en même temps, le sport, c'est aussi une façon de s'exprimer. C'est un moyen d'expression, le sport. Et sur le plan psychologique, le sport est aussi un médicament extrêmement intéressant pour des enfants notamment. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de sport à l'école maternelle, à l'école primaire, de manière plus... Moi, je considère que le sport doit être mis au même niveau que l'apprentissage de la lecture ou du calcul. Pour moi, c'est aussi important.
D'ailleurs, vous avez été membre du Conseil économique et social, la troisième chambre du Parlement français, et vous avez été porteur des résolutions pour que, justement, ce que vous venez de dire à l'instant, pour que le sport fasse partie, dès le plus jeune âge, des choses enseignées, comme la lecture, comme Exactement. La musique, etc.
Pour moi, c'est essentiel, effectivement, cet avis sur l'économie du sport. Reprenez un peu tout ce que je viens de dire, sur le sport santé, sur le sport prévention. Le sport aussi, je pense au QPV, c'est aussi un élément de prévention de la délinquance. Et pour des jeunes qui font du sport, et s'ils sont bien accompagnés, ça peut être aussi un ascenseur social pour des jeunes issus de ces quartiers. Or, on note qu'il y a moins 30% de mètres carrés d'équipements sportifs dans les QPV que la moyenne nationale. Il y a un problème, la population est plus jeune, et il y a des problèmes, évidemment, qui se posent de délinquance, etc. Donc, si on veut vraiment prévenir tout cela, eh ben, il faut mettre davantage de moyens sur le sport dans les quartiers difficiles. Et ça, c'est aussi une des propositions que j'avais fait lors de cet avis.
Alors, je disais que tout ce qui est jeu, évidemment, vous attire. Donc, on va parler des jeux méditerranéens dans un instant, mais il y a aussi les jeux francophones. Et vous êtes aussi impliqué dans les jeux francophones. Alors, les jeux de la francophonie.
Alors, pour l'instant, non, parce que je m'occupe de la francophonie en athlétisme. Je préside l'association des fédérations francophones d'athlétisme et on est en train de mettre en place alors jusqu'à présent c'était de la coopération, de la formation d'entraîneurs, de dirigeants, etc. dans les pays francophones, et là on a décidé de mettre à partir de la saison qui vient, la prochaine, un circuit de meeting francophone, une dizaine de rendez-vous, et un circuit également de course sur route. Et on a expérimenté le premier meeting au Cameroun à Douala il y a un mois, ça s'est très bien passé. On va expérimenter mi-juin un marathon au Rwanda, à Kigali, et bon, on va voir. Et puis ensuite, on mettra en œuvre ce calendrier. Je le fais aussi en relation avec l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Et effectivement, les Jeux de la francophonie ont été reportés, qui devaient avoir lieu au Congo-Kinshasa cette année, ont été reportés en 2023. Et donc, effectivement, je vais sans doute m'y intéresser davantage et peut-être apporter mon concours à ce que ces Jeux soient réussis. Voilà. Donc, effectivement, ça aussi, ça m'intéresse beaucoup.
Alors, je disais à l'instant que vous êtes né en Algérie à Saïda, et l'Algérie c'est aussi votre pays, c'est votre deuxième pays, vous êtes français, vous êtes algérien, et tout naturellement, l'Algérie a fait appel à vous lorsqu'elle a commencé à réfléchir et à l'organisation des Jeux méditerranéens d'Oran. Et ça, je crois que c'était il y a à peu près 3-4 ans,
c'est ça ? Il y a 3 ans, j'ai été donc proposé par le président du Conseil international des Jeux méditerranéens, qui était algérien, puisque depuis, il a arrêté, et c'est un Italien.
Il était remplacé par un Italien, je crois.
Un Italien. Et donc, il m'avait proposé de piloter la commission de coordination de l'organisation des Jeux. Donc, c'était il y a 3 ans, et c'était l'occasion pour moi de revenir dans la région d'Oran, que j'avais quittée en 62 avec mes parents. J'avais jamais remis les pieds de
renouer vos racines algériennes.
Exactement, de renouer mes racines. Je suis même retourné à 2 reprises à Saïda, dans la commune où je suis né, et la dernière fois, c'était il y a un mois, avec le Wali qui m'a accompagné, le Wali d'Oran, et j'ai retrouvé mon école telle qu'elle existait, elle n'a pas changé, et ça m'a rappelé plein de souvenirs, évidemment, c'était très très émouvant. Donc voilà,
Donc on a fait appel à un enfant du pays pour organiser les Jeux d'Oran.
Pour coordonner, c'est pour pas coordonner. Moi qui organise, coordonner l'organisation, donc veiller effectivement à ce que le cahier des charges qui a été donc sur lequel s'est engagé le pays, ben, soit respecté. Donc voilà, et non, mais en même temps, c'est vraiment une expérience tout à fait intéressante avec beaucoup de gens passionnés qui sont chargés d'organiser dans différents domaines, et les choses se présentent plutôt bien, parce que pour l'Algérie, c'est un événement important. C'est un peu les Jeux Olympiques de la Méditerranée, les Jeux Méditerranéens. C'est tous les comités olympiques qui sont de la Méditerranée qui sont concernés. Donc, vous voyez, il y a 24 sports, il y a 26 pays, donc c'est quand même un événement tout à fait important. On a obtenu d'ailleurs, on a un partenariat avec l'Eurovision, et on a obtenu 84 heures de direct, et dans 16 pays, alors que les derniers Jeux MED qui avaient lieu en Espagne, à Tarragone, il y a 4 ans, c'était 4 pays seulement, donc vous voyez, il y aura une visibilité beaucoup plus grande pour ces Jeux en Algérie.
C'est une vitrine pour l'Algérie qui est considérable, c'est un événement hors classe, hors norme, et c'est une façon aussi pour l'Algérie d'apparaître sur le devant de la scène au niveau international et de faire valoir un petit peu aussi son image.
Tout à fait, je pense que les dirigeants du pays l'ont bien compris, et d'ailleurs ils ont mis le paquet hein, sur les équipements, beaucoup de nouveaux équipements ou de rénovation d'anciens équipements. Les équipements sont vraiment de grande qualité. Le village olympique, là où vont loger les athlètes, c'est dans une université remarquable, les chambres sont très bien faites et tout. Il y a voilà toute une animation également qui va être prévue pour la vie des athlètes et de les accompagnateurs. Et donc là aussi c'est un effort important. Et je pense qu'il faut aussi que, et on y réfléchit, on travaille également sur l'héritage, parce que derrière ces jeux, il faut que le sport soit beaucoup plus présent dans la vie gérée des citoyens algériens sur tous les plans, de l'école à la maison de retraite, j'allais dire, de manière à ce qu'effectivement le sport continue à donner une image très positive à ce pays. Il en a besoin, et ces jeux, c'est une belle opportunité, bien sûr.
Et donc, quand on sait ce qui se passe depuis quelque temps avec Emmanuel Macron, qui a beaucoup fait pour la mémoire, entre autres avec le rapport Benjamin Stora et pour le rapprochement avec l'Algérie. Est-ce que le sport, déjà, c'est un facteur de rapprochement entre le peuple français et le peuple algérien?
Bien sûr que le sport règle des problèmes qu'on a parfois beaucoup de mal à régler de manière politique. Et évidemment, la relation entre la France et l'Algérie, et on va fêter l'anniversaire, le 70e anniversaire. 60e anniversaire de l'indépendance. C'est le 5 juillet. Les Jeux se terminent le 6 juillet. Donc, on est en plein dedans. Moi, je souhaite évidemment que ces relations entre la France et l'Algérie soient meilleures. Il y a vraiment un potentiel énorme de liens entre nos deux pays. Il y a quand même 5 millions d'Algériens qui vivent en France et qui ont de la famille en Algérie. Donc, il y a des échanges permanents entre la France et l'Algérie dans la réalité quotidienne. Et je pense que c'est aussi une opportunité, peut-être, pour travailler ensemble sur plein de sujets entre l'Algérie et la France. Il y a des sujets dans le domaine économique. Il y a plein de choses à faire dans le domaine touristique. L'Algérie est un pays formidable. Il y a tout en Algérie. Il y a la plage, il y a la chaleur, il y a la montagne. L'hiver, on peut faire du ski. Bref, il y a tout, le Sahara, bref, pour le tourisme, c'est extraordinaire. Et même sur les questions, je dirais, politiques de sécurité et tout, on sait très bien qu'autour des frontières algériennes, il y a des problèmes, le Mali, etc. Pourquoi il n'y aurait pas un accord entre la France et l'Algérie pour travailler ensemble sur ces questions-là? On sait que l'Algérie a beaucoup souffert de l'islamisme radical dans les années 90, 200 000 morts hein, au total, quand même, c'est pas rien. Et que voilà, tout le monde a intérêt à travailler ensemble sur ces sujets-là. Donc moi, je crois vraiment que là, il y a une belle opportunité pour la France de renouer un dialogue positif avec ce pays, qui est un grand pays pour moi, et qui pourrait être le pays le plus dynamique de la Méditerranée, à condition évidemment de ne pas rester fermé, mais de s'ouvrir.
Alors voilà, donc un vrai rendez-vous est proposé. J'espère que ce rendez-vous aura lieu. On se retrouve dans un instant pour les grands témoins avec Bernard Amsalem.
Les grands témoins revient dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan.
Oui, toujours avec Bernard Amsalem pour ce magnifique grand témoin sportif et méditerranéen. Donc on parlait à l'instant d'un rendez-vous qu'il faudrait ne pas rater, un rendez-vous souhaité par beaucoup de gens, en tout cas des deux côtés de la Méditerranée, entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, les deux présidents français et algériens. Mais au-delà de ces rendez-vous peut-être institutionnels, c'est un rendez-vous de la fête et du peuple. Il y a, je crois, 3500 athlètes. Il y a une tonne d'activités culturelles. Donc, c'est une grande fête.
Absolument, c'est une très grande fête. Donc il y a effectivement près de 3500 athlètes inscrits dans 24 sports. Avec les accompagnateurs, c'est près de 6000 personnes qui vont venir de toute la Méditerranée, hein, qui seront logées essentiellement à la cité universitaire, mais d'autres seront logées à Mostaganem pour le football, parce que la plupart des compétitions se passent du côté de Mostaganem, et pour la voile aux Andalouses, parce que c'est là qu'aura lieu les compétitions. Avec un programme, alors il y a les cérémonies d'ouverture et de clôture, mais il y a aussi un programme culturel pendant toute la durée des championnats qui permettra de mettre en valeur la chanson, le raï, qui est une spécialité d'Oran.
Qui est la spécialité oranaise, oui.
Des chansons aussi arabo-andalouses, qui aussi, c'est l'histoire de l'Oranie aussi. Et puis, de la danse, des expositions de peintres, de sculpteurs, bref, de la musique. Tout ça pendant toute la durée des Jeux, donc un programme culturel très, très innovant, très ambitieux, et surtout des cérémonies d'ouverture et de clôture de grande qualité, qui ont été préparés par Salim Dada, qui est une grande personnalité de la culture algérienne et qui a bien travaillé. Je pense que ce sera des spectacles qui resteront dans la mémoire de ceux qui les verront.
Et j'imagine que le sport féminin sera aussi à l'honneur, parce qu'il y a aussi beaucoup d'athlètes femmes.
Absolument, on est quasiment, on n'est pas loin de la parité, hein, on est à 45-55, on va dire, en répartition. Il faut signaler également qu'on a 4000 bénévoles qui ont été sélectionnés, donc des jeunes, à la fois d'Algérie, mais aussi des Algériens d'autres pays méditerranéens, qui viendront spécialement pour donner un coup de main comme bénévoles. Et dedans, évidemment, c'est un mélange de garçons et de filles. Donc, tout ceci permettra véritablement de marquer, en quelque sorte, l'histoire. Alors, pas simplement sportive, évidemment, le sport est fondamental là, mais aussi l'histoire, l'image de l'Algérie, de la ville d'Oran, parce que ça concerne énormément de gens qui vont participer à l'événement.
S'il y a une ville méditerranéenne par excellence, c'est bien Oran, qui est berbère, qui est arabe, qui est espagnol, qui est turc. Enfin, allez, c'est une ville de mélange, Oran. C'est une capitale méditerranéenne.
Il y a tout ça. Les Espagnols, il y a la fameuse basilique Santa Cruz qui a été construite qui est un peu sur les hauteurs d'Oran par les Espagnols au XVIe siècle. Il y a aussi beaucoup de vestiges de l'Empire ottoman qui a été très présent et qu'on peut visiter d'ailleurs, hein. Donc là aussi, sur le plan touristique, il y a plein de choses à faire. Et puis évidemment, c'est aussi une culture berbère très forte, très profonde, j'allais dire, qui est très marquante ici et un peu en Kabylie, mais surtout à Oran. Donc tout ceci va s'exprimer au travers du programme culturel qui a été mis en place.
Une culture berbère que Mouloud Mamri a illustré avec son magnifique livre qui s'appelle « L'île du Gourara », parce que le Gourara est tout autour d'Oran. Et puis donc, l'Algérie renoue avec sa dimension méditerranéenne. C'est donc africaine aussi, hein. L'Algérie est un pays africain, et on a l'impression que l'Algérie revient un peu à ses fondamentaux, c'est-à-dire que l'Algérie algérienne, qui est africaine, méditerranéenne, et peut-être que avec ce qui se passe malheureusement avec la guerre en Ukraine, on redécouvre un peu le rôle primordial que l'Algérie peut avoir dans le nouveau concert des nations.
Absolument, l'Algérie, compte tenu de la grandeur du territoire, c'est le plus grand pays d'Afrique, l'Algérie, hein, aujourd'hui, avec le Sahara, peut sans doute demain être le fournisseur du blé pour tous les pays d'Afrique, vu ce qui se passe actuellement avec l'Ukraine et la Russie, où il y a des pays qui risquent de subir très 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 difficilement le fait de ne pas pouvoir accéder à ce blé au tournesol, etc. L'Algérie a le potentiel, il y a les terres qu'il faut pour développer tout ça. L'Algérie, on le sait déjà, c'est aussi un producteur de pétrole. Il peut aussi régler ces problèmes-là, puisque les pays européens ont décidé de ne plus acheter le pétrole russe. Donc
le gaz aussi.
Le gaz et le pétrole. Donc il y a déjà des pays, j'ai vu que l'Italie avait déjà pris des contacts avec l'Algérie là-dessus. Donc il y a plein d'échanges à faire autour de la Méditerranée. Et c'est pour ça que je dis que l'Algérie a un potentiel aujourd'hui de leader méditerranéen. Alors, les Jeux, c'est une opportunité d'image, de visibilité. Mais derrière, il y a une économie existante qu'il faut développer. dans tous les domaines, dans le domaine agricole, dans le domaine donc du pétrole et du gaz, de l'énergie, mais aussi dans le domaine des technologies, parce qu'aujourd'hui il faut aussi travailler avec les nouvelles technologies. Et je sais qu'il y a quelques projets importants là-dessus en Algérie. Donc voilà, demain, si tout se passe bien et si il y a une vraie volonté politique, et en tout cas je sais qu'il y a les moyens de le faire et les intentions. Demain, l'Algérie peut être un leader méditerranéen.
Oui, et puis, vous le disiez à l'instant, c'est le 60e anniversaire de l'indépendance. N'oublions pas que l'Algérie, c'est une des plus fortes, une des plus belles révolutions au monde au XXe siècle. Et encore aujourd'hui, elle a une aura planétaire. Et donc, j'imagine que c'est l'image de la révolution va servir aussi les Jeux méditerranéens. Disons que l'un et l'autre va contribuer, disons, au rayonnement des Jeux méditerranéens. Et peut-être que à ce moment-là, différents partenariats, différentes passerelles, différents projets vont se dessiner.
Moi, j'aimerais vraiment, à l'occasion de ces Jeux, qu'entre la France et l'Algérie, on rétablisse un peu nos relations, les relations politiques, et qu'on puisse réfléchir à un partenariat sur plein de sujets qui nous relient. J'ai parlé du tourisme, mais on peut parler évidemment de l'énergie. Hein, là-dessus, l'Algérie est plutôt bien placée. Sur les nouvelles technologies. Et donc, il y a plein de sujets sur lesquels on peut travailler ensemble et faire profiter les deux pays de notre savoir-faire, de nos expériences, de nos possibilités, de notre richesse existante. J'espère que ces Jeux, ce sera un facteur déclenchant d'une meilleure relation.
Je disais à l'instant, vous êtes né en Algérie, donc vous êtes aussi algérien. Peut-être que beaucoup d'enfants de pieds noirs, comme on les appelait, ont envie, d'enfants, de petits-enfants, ont envie d'aller sur les traces de leurs parents, de leurs grands-parents. Et de ce point de vue-là, peut-être qu'il y a aussi tout un travail à faire au niveau de la mémoire, au niveau de peut-être des monuments, des cimetières. Enfin, il y a des voyages qui sont en place. Il y a peut-être comme ça aussi, à travers ces jeux, peut-être la possibilité de montrer un chemin.
Effectivement, l'Algérie, c'est un pays de mémoire. Alors, on peut regarder la mémoire très ancienne. Les Romains ont occupé l'Algérie un peu avant Jésus-Christ, les Phéniciens, on a parlé de l'Empire ottoman, la France évidemment, l'Espagne aussi, notamment la région d'Oran. Donc il y a tout ça, et on trouve des vestiges dans tous ces domaines-là dans l'Algérie. Il faut les mettre en valeur, et effectivement il faut travailler sur la mémoire. Alors moi je dis pas que je suis pied noir, j'ai jamais dit que j'étais pied noir. En fait, mes ancêtres, ils sont en Algérie depuis plus de 2000 ans. Moi, quand les Français sont arrivés, on était déjà là. Moi, j'étais pas né, évidemment, mais mes grands-parents, arrière-grands-parents étaient déjà là. Donc, nous sommes d'origine berbère, de berbères judaïsants. Parce qu'à une certaine époque, les berbères, jusqu'à la princesse Kaïna, étaient judaïsants. Et après, les choses ont un petit peu changé. Mais on a toujours été dans ce pays. C'est notre pays. Et donc, nous sommes très nombreux, un peu partout dans le monde maintenant, à avoir été conçus dans ce territoire-là, je dirais en Afrique du Nord en général, et l'Algérie étant le pays le plus important des trois pays d'Afrique du Nord.
Voilà. Donc, on aura retenu Benaram Salem, cette fougue et cette passion à la fois pour le sport, pour l'athlétisme, pour l'Algérie, pour la Méditerranée, cette envie de passerelle, cette envie de dialogue, de faire des choses, de produire des choses. Merci mille fois d'être venu nous voir dans Les Grands Témoins. Et puis, on souhaite bonne chance aux Jeux méditerranéens d'Oran. Et bien sûr, Beurre FM y sera. Merci, à très bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
Retrouvez Les Grands Témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.